Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation. Mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, je me confie en toi. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Bonjour, chers amis. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Ici, la vie est un peu spéciale ces jours-ci. C'est l'année scolaire qui est finie pour l'école. Donc, il y a eu une fête rien qu'avec les enfants et nos filles. Et puis après, il y a eu une fête avec les parents où les enfants présentaient des chants, de toutes sortes de choses. Enfin, ça s'est bien passé hier. Bon, tout ça, ça fait du monde chez nous, dans notre propriété derrière. Vous savez qu'il y a une autre école chez nous, c'est une école pour les réfugiés de l'Ukraine, de la guerre de l'Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie, ou plutôt entre la Russie et l'Occident capitaliste. Et ce qui se passe, il y a 10 réfugiés chez nous, évidemment, qui logent chez nous depuis 4 mois, et puis il y a tous ceux qui viennent pour apprendre le français, parce que ils ne sont pas certains de retourner. Ils aimeraient bien de retourner dans leur pays qu'ils aiment et où ils ont leur famille. Mais tout est incertain. La guerre augmente. La cruauté des deux côtés augmente. Et donc, ils pensaient repartir à la fin du mois de juillet, la plupart. Et puis maintenant, ils hésitent. Ils vont hésiter comme ça toujours. Parce que ce n'est pas une guerre qui se finit, qui se finira comme ça. Alors, ils sont ici, ils ont une école, et ils sont 20, 25 à étudier le français auprès de Noémie. Noémie est heureuse de faire son travail, ils lui ont offert un bouquet de fleurs, ils l'ont félicité, ils l'ont remercié. Elle a 24 ans, elle est vraiment engagée pour les seigneurs, elle est célibataire. Nos trois filles sont vraiment à l'image des trois jeunes filles au Pakistan, chez le pasteur Saïd qui enseigne les enfants. C'est-à-dire qu'ici, elles n'ont pas de salaire. Elles n'ont pas de salaire. Véronique, c'est son mari qui est ingénieur docteur et qui enseigne des futurs ingénieurs, qui est évidemment bien payé. Peut-être pas autant que d'autres docteurs ingénieurs, mais il est bien payé et il a un salaire qui permet à Véronique de travailler gratuitement 8 heures par jour pour l'école des enfants. Alors on a les enfants de 3 à 12 ans. Maintenant il y a évidemment Bénédicte qui a, Véronique a 36 ans, elle a fait l'école biblique, l'institut pendant 3 ans, en France, et Bénédicte a fait aussi l'institut, là, 2-3 ans de plus, elle a 39 ans, et elle enseigne les enfants de 7 ans à 12 ans. Bon, et Noémie, 24 ans. Il y a bien sûr un autre projet d'école, c'est pour l'école secondaire, et on commence au mois de septembre avec un enfant, peut-être, vous savez, quand on commence avec eux, on sait très bien qu'on finira avec beaucoup un jour, hein. Donc, il y a des programmes par ordinateur en Belgique qui ne coûtent rien et on va donner, qui sont très bien faits et qui permettent aux élèves d'étudier, mais il faut un encadrement, il faut de l'amour, il faut du conseil, etc. Bon, on est là pour ça. Ma femme et moi, on a des diplômes de professeurs. Vincent est professeur. Nos filles ont un diplôme d'enseignante. On est dans un milieu qui se donne dans l'amour et dans l'enseignement. Vous savez, chers amis, je vous demande de prier pour que cette œuvre continue. Notre région a besoin d'un rayonnement important. Il y a énormément d'athéisme, il y a énormément d'idolâtrie, d'occultisme, il y a énormément de folie, de sottise en tout genre. Et l'Église catholique n'a pas assumé sa mission ici. Il y a des braves personnes catholiques, hein, évidemment, très braves et très sincères, très attachées à Dieu, et sont quelques pourcents de la population, 2-3% de la population. Mais toute la population se dit catholique, baptisée petit, mariée et enterrée à l'Église catholique. Maintenant, il y a une emprise qui s'étend, c'est celle de la franc-maçonnerie, où ils font des fêtes parallèles et ils ont singé l'Église catholique. Ils font un baptême laïque, ils font une fête à 12 ans pour une espèce de consécration, hein, comme la confirmation catholique. Et puis ils font les mariages laïques, ils font les enterrements laïques. Le diable aime bien le singer. Ça n'arrange rien parce que les gens sont toujours aussi vides. Nous avons constaté dans cette fête de l'école hier, dans les conversations avec les parents, que la plupart ont déjà essayé tout avant. Et ils viennent vers l'école de nos filles, où il y a un enseignement chrétien. Ils ont essayé un peu tout. Et ils ont ouvert les yeux, ils ont cherché. Et ils viennent, ils ne sont pas chrétiens, ils emmènent leurs enfants à l'école. Et ils sont ravis de voir ce qui s'y passe. Et parfois, les parents restent aux 3 quarts d'heure au début de la journée pour entendre l'enseignement, les chants, etc. Comme nos filles ont fait l'institut biblique, elles ont une base formidable. Chers amis, je voudrais vous dire ceci, c'est que si une église veut continuer en Occident, même autre part, à porter du fruit et à continuer, il faut qu'elle investisse dans la formation. Il faut qu'elle investisse dans la formation. Il faut que les jeunes gens, les jeunes filles fassent des écoles bibliques, fassent des études bibliques. Et c'est dur. Il faut bosser. Il faut bosser. C'est pas si simple que ça. Et les fruits viennent après. Nous sommes une petite église. Nous sommes 15, 20. On a été beaucoup plus nombreux. Et il y a beaucoup de désistements, il y a beaucoup d'abandon. Ici, c'est comme ça en Occident. Et ce qui se passe, il y a eu 6 personnes qui ont fait l'école biblique. Moi, le premier, de 42 à 45 ans. Ensuite, Bénédicte, ensuite Véronique, ensuite Noémie. Mais il y a eu deux jeunes gens, Michel et Michael, et qui eux ne servent pas le Seigneur. J'aurais espéré que ces deux jeunes gens servent le Seigneur, mais ce n'est pas le savoir, l'intelligence théologique qui donne l'engagement. Il faut vraiment avoir un appel en soi, vraiment une grâce immense pour servir Dieu, pour se donner. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, on ne peut pas par soi-même servir le Seigneur longtemps si on n'a pas cette grâce. Et c'est clair que dans les églises, il faut investir dans la formation et il faut investir dans la prière, énormément de prières, pour que des gens de tous les âges fassent les écoles bibliques, de tous les âges aient la grâce de servir. Le service est une grâce, est un don, c'est un ministère donné par Dieu. Et il y a plein de différents services. Je vais continuer ma méditation. Excusez-moi, hein, parce que ils ont commencé le repas là, tous les Ukrainiens là derrière notre maison. Ils ont fait de bons repas, hein, et avec amour, avec joie. Ils sont très heureux d'être ici chez nous. C'est vraiment pour nous. On partage cette bénédiction ensemble, hein. Ils sont pour nous, ils sont une bénédiction par leur présence, par leur visage, leur passé, leur souffrance, leur joie, et nous sommes une bénédiction pour eux aussi. Et clairement, mes amis, je pense qu'au ciel, quand on sera tous autour du Seigneur à table, dans ce grand repas qui est prévu par Dieu, dont il connaît le jour et l'heure, Ésaïe 25, versets 6 à 9, dans ce grand repas, on sera étonné, on sera émerveillé de la beauté de nos frères et nos sœurs dans la foi. Et ça sera fini pour les douleurs. Ça sera fini pour les chagrins et les injustices. Et pour la mort. Ça sera magnifique. Ce que je vois là, de ma fenêtre, cette petite table, ils sont tous heureux, alors qu'ils ont des souffrances énormes. Ils sont tous heureux, c'est ce que je vois petitement, mais qui sera au ciel de manière grandiose. Grandiose, en présence de Jésus-Christ, en présence de Dieu le Père, sous la puissance du Saint-Esprit. Oui. Alors, où est le plaisir de Dieu? C'était mon sujet tout à l'heure, l'autre jour. J'ai cité des choses, j'ai cité des textes. Et je vais dans Jérémie 8, verset 5. Jérémie, chapitre 8, verset 5. Où est le plaisir de Dieu? Je continue le sujet de l'autre jour. Jérémie, chapitre 8, verset 5. Donc, n'oubliez pas, mes amis, que nous partons le premier et nous allons en France et je ferai mon message. J'espère être arrivé pour 6 heures à l'endroit et pouvoir faire le message. C'est pas facile toujours. Il y a toujours plein d'imprévus. Donc Jérémie, chapitre 8, verset 5. Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Ils persistent dans la tromperie, ils refusent de se convertir. Je suis attentif et j'écoute. Ils ne parlent pas comme ils devraient. Aucun ne se repent de sa méchanceté et ne dit qu'ai-je fait. Tous reprennent leur course comme un cheval qui s'élance au combat. Et alors, il y a quelque chose de formidable après, qui est dit, même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle, la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Comment pouvez-vous dire, nous sommes sages, la loi de l'Éternel est avec nous? C'est bien en vain que s'est mise à l'œuvre la plume mensongère des scribes, donc des intellectuels, des théologiens, de ceux qui dirigent le peuple, dans la fausse foi. Nous voyons que Dieu a plein d'amour. Il a prévu un rythme de vol. Un rythme saisonnier pour la cigogne. Un pays où elle passe l'hiver, un pays où elle passe l'été. Et il a prévu pour la tourterelle la même chose. J'ai vu des cigognes en Bulgarie lors d'une visite à des chrétiens là-bas. Il y en avait plein dans les prairies. Et puis les cigognes, on les retrouve en Autriche, on les retrouve en Alsace, une partie de la France, tout près de l'Allemagne. Elles ont des rythmes, elles ont des chemins, elles les connaissent. L'hirondelle, c'est la même chose. Je suis tout heureux de revoir les hirondelles venir dans notre grande maison, dans les anciens espaces où il y avait les animaux. Elles font des nids, elles arrivent à 10, 12, elles font des petits. Et quand elles ont fini la saison, elles sont 50, 60. Tous les petits volent et ils repartent. Ils font 12 000 km. Et puis ils vont revenir. Ils vont donc en Afrique du Sud, à 12 000, 14 000 km, des petits oiseaux si faibles, si petits, si fragiles. Et puis, ce qui se passe, quand le moment est revenu, au mois d'avril, elles reviennent. Et pourquoi? Le mystère est là. Pourquoi? Eh bien, les biologistes belges ont étudié ça. C'est parce que quand elles font les petits dans le nid, il faut qu'elles soient à l'hémisphère nord et que les petits enfants, leurs petits oiseaux, aient à manger au bout de 5 heures, 5 heures et demie, 6 heures. Au-delà, ils vont périr, ils manqueront de sucre dans le sang, ils manqueront de vitamines. Donc, les hirondelles commencent à voler à 3 heures, 3 heures et demie du matin, ici en été. Elles volent, elles vont attraper les mouches, les mouchettes, et les amènent. Et je me suis installé et j'ai regardé. Une hirondelle arrive tous les 5 minutes, soit de la mère, soit de le père. Et les petits ouvrent tous le bec. Tous les 5 minutes, il y a à manger. Et ces hirondelles, papa et maman, font cela jusqu'à 11 h du soir. 11 h moins quart. Et voyez-vous, l'hirondelle aime ses petits et elle sait que les conditions, je ne sais pas. les conditions de l'hirondelle sont dirigées par Dieu. Parce qu'un petit, une petite hirondelle doit avoir une bonne glycémie, doit avoir du sucre dans le sang en suffisance. Il faut donc qu'elle ait à manger au plus tard 6 heures après, quand l'obscurité est finie ici en été. Et la grue? Eh bien, la grue, c'est la même chose. Elle va en Casamance, au Sénégal, elle va sur le Nil en Égypte, elle passe ici au-dessus de chez nous, elle va au Danemark, elle va en Finlande. Elle fait aussi 8 000 km. Et tous ces animaux observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Comment pouvez-vous dire, nous sommes sages? Vous voyez, chers amis, si Dieu parle comme ça par la bouche d'un prophète, c'est parce qu'il nous aime. Il veut nous ramener au bon sens. Dieu nous aime. Il a du plaisir à nous parler. Il a de l'amour, de la miséricorde en lui. Et il a créé merveilleusement la nature pour que nous observions sa sagesse, son intelligence, et que nous comprenions que nous ne sommes pas plus que ces petits moineaux. Ces hirondelles, ces grues, ces cigognes, nous sommes pas plus. Il ne nous faut pas vivre dans l'orgueil et la présomption. Le plaisir de Dieu, c'est que nous ayons à manger la parole de Dieu. Je vous lis le verset 8. Comment pouvez-vous dire nous sommes sages? La loi de l'Éternel est avec nous. C'est bien en vain que s'est mise à l'œuvre la plume mensongère des scribes. L'enjeu ici, c'est la loi de l'Éternel. Nous, notre nourriture, c'est la parole de Dieu. Notre nourriture, c'est la parole de Dieu. Il n'y a rien d'autre. Quand quelqu'un est chrétien et ne lit pas la Bible, je ne sais pas moi, il n'a rien compris. Si quelqu'un est analphabète, il ne sait pas lire, mais ben qu'il se mette à côté de quelqu'un qui sait lire, qu'il demande des explications. Quelqu'un qui aime Dieu aime la nourriture qu'il lui donne. Et c'est sa parole. C'est sa parole qui est donnée au bon moment, tous les jours. Il faut aimer la parole de Dieu si on aime la vie et si on aime Dieu notre Père. Ésaïe 58. Je vais prendre d'abord 55, verset 6. Ésaïe 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Pourquoi ces versets? Parce que si Dieu nous déteste, il n'est pas tout près de nous. Si Dieu nous déteste, il n'a pas d'amour paternel envers nous, mais il ne va pas se laisser trouver. Il va se cacher, il va fuir, il va nous maudire. Et non, pas du tout. C'est pas la vraie position de Dieu, c'est l'amour, la miséricorde. Ésaïe 55, verset 6, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, donc il n'est pas loin. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Parlez-lui. Dans le chapitre 54, à propos de, bien sûr, d'Israël, de Jérusalem, mais nous sommes par la foi descendants d'Israël. Réjouis-toi stérile, donc toi qui n'as pas vécu dans la foi, qui n'as pas aimé la parole de Dieu, qui n'as pas produit les fruits que tu devais donner, eh bien, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, qui ne peux plus accoucher. Car les fils de la délaissée sont plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Donc, c'est l'opposition entre Sarah et Agar, les deux épouses de Abraham, bien sûr, qui est fait en référence ici. La délaissée, bien sûr, c'est cette pauvre femme qui est vieille, qui est découragée et qui n'avait pas d'enfant, qui était démoralisée, c'était Sarah. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages, affermis tes pieux. Vous voyez, c'est une parole d'encouragement, une parole de promesse que Israël va accueillir toutes les nations. Verset 5. Ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, ton Rédempteur est le Saint d'Israël, il se nomme Dieu de toute la terre. L'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants je t'avais abandonné, mais avec une grande affection je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur l'Éternel. Vous voyez à quel point l'affection de Dieu est grande. Qu'il y a de l'affection, il y a le plaisir de Dieu. Il l'aime. Il aime être plein d'amour pour nous. C'est pas par obligation qu'il a de l'amour pour nous. Rien ne l'oblige. Il aime avoir de l'amour. Donc il a du plaisir dans son amour. Au verset 10, « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. » Combien de fois Jésus a eu compassion des foules? Jésus n'est pas un misérable, il est Dieu. Jésus est rempli d'un torrent d'amour infini, éternel. C'est plus haut que toutes les montagnes, son amour envers nous. Alors, c'est pour ça qu'il faut écouter cette indication, chapitre 55, verset 6, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le, tandis qu'il est prêt. » Hier, durant cette fête de l'école de nos filles, là, de Bénédicte et Véronique, pour les enfants, durant les sketchs, tout se passait bien, mais après, il y avait un petit repas, il y avait des moments de partage. Mais je me suis rendu compte que beaucoup de personnes cherchaient Dieu. Elles ne savent pas qui est Dieu. Elles n'ont pas ouvert la Bible. Mais elles cherchent Dieu. Le grand drame de l'humanité, même pour quelqu'un qui dit qu'il y a une religion, c'est de ne pas ouvrir la parole de Dieu. C'est de ne pas aller se nourrir là où Dieu donne la nourriture. Tous ces gens qui, de toutes les nations, qui cherchent Dieu aujourd'hui, qui se rendent compte que le mal est en train de mettre en péril l'humanité. Hein? Voici ce que Dieu dit. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, tous les nuages, comme des colombes vers leur colombier? Donc, c'est une image pour dire que les humains sont comme des colombes qui retournent au colombier. Elles vont finir. Les âmes humaines vont finir par se donner à Dieu et à le reconnaître. Mais elles ont du mal de quitter leur péché. Elles ont du mal de quitter leur ignorance et leur désintérêt pour la parole de Dieu, pour le vrai Dieu. On veut bien fricoter alentour, tourner alentour, mais se donner entièrement, le cap est difficile à passer. Vous savez, c'est facile pour une femme et un homme de faire d'avoir des relations sexuelles. Mais le moment où la grossesse se termine par l'accouchement, là, c'est pas marrant. C'est très dur pour la femme. Parfois, pour le mari, s'il aime sa femme, s'il aime vraiment sa femme, c'est très dur aussi. Mais il y a un moment où il faut bien se dire, il faut passer le cap de l'accouchement pour Dieu aussi, pour la foi. Si nous, un jour, dans votre vie, vous vous donnez vraiment à Jésus, personne ne doit vous y forcer. Personne ne doit vous y avoir manipulé. Mais il est temps de le faire. Le monde touche à sa fin. Le monde des nations, cette civilisation fausse, va s'écrouler bientôt. Alors, voici une promesse que Dieu a faite. Ésaïe, chapitre 60, verset 19. « Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais ce sera l'Éternel, il sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus, ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera la lumière, ta lumière à toujours. Les jours de ton deuil seront passés. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple, et ils posséderont à toujours le pays. Chers amis, le plaisir de Dieu est d'avoir donné des prophètes, d'avoir donné sa parole à travers les prophètes, à travers les siècles. Le plaisir de Dieu est de nous dire qui il est et ce qu'il veut pour nous. Il veut le meilleur. Si Dieu n'avait pas ce plaisir fondamentalement en lui, ce plaisir de l'amour vrai, il n'aurait jamais envoyé de prophète, ni Jésus. Là, on est foutu. Il y a des religions qui n'ont pas Jésus, qui n'ont pas les prophètes. Ils n'ont que des règlements. Et les gens restent dans la crainte, dans la peur, dans la panique, dans l'inconnu. Nous ne sommes pas de ceux qui se perdent. Nous savons où nous allons, nous connaissons le chemin, c'est Jésus. N'oubliez pas, chers amis, Ésaïe 58, verset 14, tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Ça doit être réciproque avec Dieu. Ça doit être réciproque. Ça doit être un plaisir partagé, sincèrement. Dans Ésaïe 62, verset 1, pour l'amour de Sion, de Jérusalem, je ne me tairai pas. Pour l'amour de cette ville, Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire. On t'appellera d'un nom nouveau que la bouche éternelle déterminera. C'est Jésus-Christ, évidemment, le nom nouveau. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Mon plaisir en elle. Et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi, comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Ésaïe, chapitre 62, verset 5. Voulez-vous faire la joie de votre Dieu? Avez-vous des enfants? Si vous avez des enfants sincères, à un moment donné, ils font votre joie. À un moment donné, ils ont des élans envers vous on sait bien que c'est tout à fait gratuit, c'est pur. Hein? Ils font votre joie. Naturellement, ce n'est pas toujours, ça ne dure pas. Mais il faut bien vous dire que pour Dieu, le jour qu'on sera face à lui, il n'y aura que ceux qui sont dans la vérité, qui seront tout près de lui. Ils feront la joie de Dieu. On ne pourra pas être en présence de Dieu et soi-disant être sauvé sans avoir une bonne relation avec lui dès avant de mourir. Dieu voit déjà où on va maintenant. Dieu voit déjà ce qu'on choisit aujourd'hui, et Dieu sait déjà qu'il va donner une chaise, une place à côté de lui, dans l'amour, dans son amour. Ésaïe 63, verset 15. Regarde du ciel et vois de ta demeure sainte et glorieuse, où sont ton zèle et ta puissance, le frémissement de tes entrailles et tes compassions ne se font plus sentir envers moi. Donc Ésaïe dit cela à propos, pour Israël, qui est bien sûr souvent à côté de la plaque, hein. Quand je vois parfois comment ils se comportent avec les voisins et tout ça, ils sont à côté de la plaque. Alors, où sont ton zèle et ta puissance? Le frémissement de tes entrailles et tes compassions ne se font plus sentir envers moi. On dirait que Dieu ne veut plus. Quand on joue avec Dieu, on dirait que Dieu prend distance Et on ne se ressent plus. On n'a plus de paix, on n'a plus de joie. Et ici, Esaïe parle avec des mots très forts. Il dit que Dieu a des entrailles. Il dit que Dieu a des compassions. Et puis, au verset 16, c'était 63, Isaïe 63, verset 15, au verset 16, il dit, tu es cependant notre papa, notre père. Abraham ne nous connaissait pas. Israël ignore qui nous sommes. Mais toi, Éternel, qui es notre père, oui, dès l'éternité, tu nous connais. Tu t'appelles notre sauveur, notre père. Alors, vous voyez, dans cette prière, cette supplique, vous pouvez apprendre, chers enfants, chers amis, chers adultes, chers personnes âgées, vous pouvez apprendre quelque chose. C'est que vous pouvez parler sincèrement avec vos mots à Dieu. Aussi maladroits peuvent-ils être, Dieu les écoutera. Voulez-vous que Dieu soit ému pour vous, que ses entrailles frémissent d'amour pour vous? Voulez-vous retourner vers votre papa? Voulez-vous retourner vers celui qui vous connaît depuis toute éternité et que vous ne voulez pas jusque maintenant, vous n'avez pas voulu connaître? Ou c'est l'endurcissement de votre cœur, ou c'est la repentance, la conversion. Dans 64, Isaïe 64, verset 7, Ô Éternel, tu es notre Père. Plusieurs fois, j'ai entendu des âneries épouvantables en disant, oh, vous savez, dans le Nouveau Testament, c'est magnifique, Dieu est notre Père, c'est Jésus qui nous a pris. Dans l'Ancien Testament, il y a des batailles, des choses sordides, Dieu n'est pas un Père, il est terrible. C'est faux! Il y a plein de passages où Dieu est notre Père dans l'Ancien Testament. C'est un cliché négatif, injuste envers les prophètes de l'Ancien Testament et la parole de Dieu, et donc Dieu. Ésaïe 64, verset 7. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Quand je vois à quel point les chrétiens du Pakistan, du Bangladesh, de l'Inde souffrent, les chrétiens, ils sont dans la classe des intouchables, la plus basse des classes sociales. Ni eau, ni électricité, petit salaire de misère. Super misère. Et il fabrique à partir de l'argile des milliers de briques. Toujours, l'argile. Comme les Hébreux en Égypte. Il a fallu Moïse. Il a fallu l'autorité de Dieu qui appuyait Moïse pour sortir ces Juifs de l'esclavage des briques. Il faudra la venue de Jésus-Christ pour sortir ces millions de chrétiens à travers le Bangladesh, l'Inde et le Pakistan, et sûrement l'Iran, et d'autres pays, de l'esclavage effrayant qu'on leur fait subir. Ce verset est très important. Ésaïe 64, verset 7, Ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés, nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Ne t'irrite pas à l'extrême, ô Éternel. Ne te souviens pas à toujours de notre crime. Regarde donc, nous sommes tous ton peuple. Croyez-vous qu'une parole comme ça, Dieu ne veut pas l'entendre? Mais bien sûr que si. C'est un papa, c'est le meilleur des papas. Et voici ce que Dieu dit, parce qu'il entend les prières des misérables, de ceux qui souffrent, comme il a entendu les paroles des Hébreux qui souffraient, les prières, les cris de détresse, sous l'autorité injuste de Pharaon, eh bien, aujourd'hui, Dieu entend les cris, les soupirs, les pleurs d'une multitude de personnes qui crient au ciel pour sortir de leur misère et qui crient vers leur papa. Et voici ce que le papa dit, et qu'il a dit à beaucoup de places dans la Bible. Ésaïe 65, verset 17. Je vais créer de nouveaux cieux, une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt Et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leurs jours, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Voilà. Et donc, plus loin, si vous voulez, plus loin, verset 22, ils ne bâtiront pas de maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain pour les orgueilleux. Ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, souffrir. Ils formeront une race bénie de l'Éternel. Leurs enfants seront la joie du Seigneur, le plaisir de le dire. Par les prophètes, par ces hommes de Dieu consacrés, par Jésus, par les apôtres, ce plaisir de Dieu est immense. Il aime nous parler. Voulez-vous écouter sa parole et en vivre? Faites-lui plaisir, mes amis. La foi chrétienne n'est pas une foi par obligation. C'est pas seulement une foi par nécessité. C'est d'abord une foi par amour, une confiance inaltérable, amoureuse envers Dieu. Cela, ça fait la joie de Dieu. Cela fait le plaisir de Dieu, sans cesse renouvelé. Prenons Osée, chapitre 6, verset 6. Osée, chapitre 6, verset 6. J'aime la miséricorde et non les sacrifices. J'aime la connaissance de Dieu plus que les holocaustes, plus que les rites. Chers amis, tout quiconque aime les rites est à côté de la plaque. Les hommes aiment bien les rites, les fastes. Ils aiment bien les processions. Ils aiment bien qu'on les voie. Ils aiment bien d'être vus et de se faire voir. Ils aiment bien d'avoir des beaux vêtements. Ils aiment faire des chants en public devant les autres. Mais la connaissance de Dieu est bien plus importante. La connaissance, c'est un amour partagé entre Dieu et moi. J'aime la miséricorde et non les sacrifices. J'aime voir les hommes dans l'amour, dans le pardon. J'aime voir les hommes dans la justice. J'aime voir les hommes dans la vérité. Cela est mon projet éternel sur les hommes. Donc c'est là mon plaisir. C'est là mon plaisir, il n'y en a pas d'autre. Osée, chapitre 2, verset 16. Voici ce que Dieu dit à propos de son peuple. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Je parlerai à son cœur. Je l'attirerai, je la conduirai au désert. Chers amis, quand quelqu'un a un bon standing, belle voiture, compte en banque, boulot, bonne réputation, je ne vois pas où est son désert. Et je ne vois pas où Dieu peut toucher son cœur. Il y a énormément de chrétiens riches sur la terre, en Occident, Europe, Canada, États-Unis et d'autres régions, Afrique du Sud, etc., Brésil. Ces gens qui sont riches et qui sont chrétiens, il est très difficile que Dieu parle à leur cœur. Malheur aux riches, a dit Jésus. Mais il est clair que l'homme, dans son orgueil, s'égare toujours. Dès qu'il a un poste, un salaire, une maison, des enfants, une voiture, etc. Il aime être connu, il aime s'affirmer, ça fait partie de la tendance humaine. Ce qu'il y a, c'est que Dieu veut, à un moment donné, conduire l'homme à sortir de tout cela, et le conduit au désert. Ce n'est pas là l'essentiel de ta vie. Ce n'est pas là que je t'y trouverai. Quand tu seras privé de cela, ou provisoirement ou définitivement, alors tu me chercheras, et je serai dans ton désert. J'irai parler à ton cœur. Il est quand même triste et dommage de voir que beaucoup de personnes ont besoin de dégringoler pour que Dieu touche leur cœur. Ont besoin que plus rien ne marche pour qu'ils se mettent à écouter Dieu et à s'occuper de Dieu. Je relis le verset. C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. En parlant, bien sûr, de cette communauté juive, hein, rebelle, mais on l'est tous, hein, Osée 2,16. Un peu plus loin, verset 21, je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce, la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité, tu reconnaîtras l'Éternel. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que la personne même de Dieu est mon partenaire dans la vie par la justice, par la droiture, par la grâce, par la miséricorde, par la fidélité. Il est mon partenaire, il est mon fiancé, il est celui qui fait alliance avec moi et qu'un jour je verrai. Et au jour du mariage, Apocalypse chapitre 19, il me mettra la tunique blanche sur moi, le vêtement incomparable du mariage, de la pureté. Pour le moment, tout quiconque a la foi en Dieu, dans sa parole et en Jésus, est fiancé de l'Éternel. Et le fiancé souhaite que sa fiancée vive dans la justice, la droiture, la grâce, la miséricorde, la fidélité. Tu reconnaîtras l'Éternel, c'est-à-dire, tu auras certainement pour toujours la relation avec moi. Mais pour ceux qui ne veulent pas, Osée a osé dire ceci. Il y a beaucoup de personnes dans nos civilisations non plus qui ne veulent pas, comme à l'époque de Osée où il siècle avant Jésus. Écoutez la parole de l'Éternel, chapitre 4, enfants d'Israël. L'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Donc, imaginez un procès au tribunal, quoi. Parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde. Donc, de pardon, de pitié, d'entraide, d'amour pour les autres. Il n'y a point de connaissance de Dieu d'un pays. Il n'y a que parjure, mensonge, assassinat, vol, adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. Évidemment, ce peuple a été privé de bénédiction. Évidemment, c'est ce qui arrive dans beaucoup de nos pays. Que dit le prophète Osée, au chapitre 4, verset 11, la prostitution, le vin, donc l'alcool, et le moût, donc la bonne nourriture, font perdre le sens, font perdre l'intelligence. Au chapitre 4, toujours, au verset 14, le peuple insensé court à sa perte. Insensé, c'est celui qui ne sait pas le sens de sa vie avec Dieu. Chapitre 5, verset 4. Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu. Oui, ils s'engluent, ils s'enfoncent dans la boue de leur péché, ils s'y embourbent complètement. Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux, parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. Alors, oui, à un moment donné, dans nos vies, nous sommes incapables d'aller vers Dieu par nous-mêmes. Impossible. C'est impossible. On a été trop loin dans des choses louches, bizarres, dans des mensonges, des combines ou des impuretés effrayantes. Mais, pourtant, Dieu ne perd pas son amour. Dieu reste fidèle à lui-même. Chapitre 6. Venez, retournons à l'Éternel. Il a déchiré, il nous guérira. Il a frappé, il vendra nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. Résurrection. Nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. N'est-ce pas beau? Dieu est le médecin des âmes perdues. Dieu est le médecin de ce monde. Autrement, ce monde ne peut pas s'en sortir, chers amis. Dieu est le sauveur du monde. Prenons Matthieu chapitre 9, verset 13. Donc le thème aujourd'hui que j'ai abordé déjà l'autre jour, nous sommes mercredi, donc j'ai abordé lundi, où est le plaisir de Dieu? Voilà. Donc je suis en train de l'expliquer à ma façon, évidemment. Vous prenez 100 prédicateurs, il y en a plein qui feront la même chose. Mais s'ils ont la Bible, ils finiront toujours par vous dire quel est le plaisir de Dieu. Matthieu 9, verset 13. Matthieu 9, verset 13. Allez, donc engagez-vous pour moi. Apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice ». C'est le verset d'Osée 6, chapitre 6, verset 6. « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. » Le Seigneur a un cœur miséricordieux, plein d'amour. Il nous demande d'être à son image, tel que Jésus. Il est quand même effrayant qu'un ami pasteur et son épouse un jour me partagent, ils sont africains, ils me disent « Les Français ne nous aiment pas. » Oui, ils nous écoutent, on prêche, on passe, mais j'en vois rarement qui disent « Je vais prier toute ma vie pour vous. » Et ce pasteur me dit « Si on nous aime, c'est pas d'abord l'argent. Si on nous aime, on prie pour nous. Tous les jours. Sans faillir. Et nous savons que la puissance de Dieu intervient dans notre ministère, dans notre service de Dieu, dans notre pays. Avec les plus grandes difficultés, nous voyons la main de Dieu. Nous devons compter sur la prière des chrétiens. De partout. Il est très difficile de rencontrer des personnes ici en Europe qui s'engagent à prier pour nous, fidèlement. Donc, exerce la miséricorde dans l'invisible. Prenons Matthieu, chapitre 12, verset 7. Si vous saviez ce que je signifie, je prends plaisir à la miséricorde. Matthieu 12, verset 7. Je vous ai dit que c'était le thème, c'était le plaisir de Dieu. Si vous saviez ce que signifie, donc c'est que ces apôtres, tous ceux qui sont alentour ne comprennent rien. Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Vous n'auriez pas condamné les innocents. Vous n'auriez pas condamné des innocents. Clairement, Dieu ne veut pas qu'on condamne des humains et qu'on les massacre au nom de Dieu, qu'on les ignore au nom de Dieu qu'on ait une bonne conscience. Dieu prend plaisir à la miséricorde. Il est nécessaire d'exercer la miséricorde. C'est le chemin du Seigneur. Alors, nous allons aller dans Luc. Et nous allons lire ce récit qu'on appelle le bon samaritain. Le docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu ? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. » Je pense que Jésus peut répondre ça aux baptistes, aux évangéliques. « Tu as bien répondu, tu sais ta leçon. » Tu connais. Mais allons un peu plus loin. Voilà ce que Jésus dit. Allons un peu plus loin que les mots, que les paroles. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Allons un peu plus loin. Engloutis-toi dans ma mission. Dans mon ministère, fais cela et tu vivras. Donne-toi complètement à moi et tu seras dans la vie éternelle. Il y a donc une adhésion intime et profonde à Christ, une communion, un don éternel de nous-mêmes, de moi-même à Christ. C'est cela qui est la clé de ma vie éternelle. C'est pas que j'ai des bonnes paroles, c'est pas que je connais sa Bible. C'est pas seulement cela. J'ai lu, mais lui, voulant se justifier, donc faire le malin, hein, montrer qu'il était en ordre avec Dieu, dit à Jésus, qui est mon prochain. Donc il n'a rien compris, évidemment. Il vient de marcher comme un éléphant dans la porcelaine. Il n'a pas le don de la miséricorde, il n'a pas le don de la compassion. Et il n'a rien compris. Et il a en mémoire, il a l'intelligence de la parole de Dieu, mais il n'a pas le ministère de la compassion, il n'a pas la sensibilité telle que Christ l'a envers le prochain. Il n'a pas l'amour du Père tel que le Père l'a pour chaque humain. Il n'a pas l'amour des âmes perdues, des âmes blessées, des âmes mal aimées. Il veut se justifier. Chers amis, la foi morte existe. Jacques le dit, la foi sans les œuvres est morte. Mais quelle œuvre ? Ah, je vais en faire le plus possible par Dieu, alors j'ai une foi vivante. Hein ? Je vais faire des réunions, je vais faire des réunions bibliques, je vais faire des réunions d'église, je vais faire ci, je vais faire ça, et aider deux, trois missionnaires, je vais aider mon voisin. Ah ben, donc je suis en ordre avec Dieu. Ah, c'est pas ça que Dieu a voulu. C'est pas ça que Dieu veut. C'est pas que je fasse mon calcul à moi. C'est que je me laisse conduire dans sa miséricorde et dans son amour pour les autres. Je me laisse conduire derrière lui. C'est pas mon moi-je qui gère la miséricorde, la compassion. Alors, il raconte ceci, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands, qu'ils dépouillèrent, le chargèrent de coups, s'en allèrent, le laissant demi-mort. C'est vrai, j'ai fait ce chemin, c'est effrayant, le désert de Judée. C'est effrayant, c'est irrespirable tellement il fait chaud, et si vous pouvez y mourir, c'est clair. Et c'est clair, il y a tellement de coins, de recoins dans les montagnes que c'est vrai, on peut se faire avoir comme on veut, se faire liquider, agresser. Alors un prêtre qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite, donc un adjoint au prêtre, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Donc un samaritain, c'est quelqu'un de détestable parce que il n'a pas la bonne connaissance de la parole de Dieu, il a des fausses théologies, des fausses doctrines, et il ne va pas au temple, il ne fait pas les jeûnes que la religion demande, etc. Bon, voilà. Le samaritain connaît certains livres de la Bible, mais pas tout, tout le reste. Donc c'est un rebut. C'est quelqu'un qu'on évite. Chers amis, avez-vous déjà fait l'expérience d'être un rebut, d'un rejeté? Avez-vous vu, avez-vous fait l'expérience d'être un rien du tout pour les autres? Pendant des années, pendant des mois, pendant votre enfance ou pendant une période de votre vie sentimentale, ou pendant votre vieillesse, avez-vous eu déjà cette expérience que vous n'étiez plus rien pour personne et qu'on vous laisse pantelant et qu'on n'exerce aucune compassion, aucun amour véritable et vous apercevez quelqu'un qui vient vous rendre service, qui vient faire ci, vient faire ça, des services sociaux, mais vous ne voyez jamais l'émergence du divin, vous voyez jamais l'émergence du sacré. Vous ne voyez pas la présence de Dieu, vous ne voyez pas la manifestation de l'amour divin à travers ses services. Alors pourquoi pas mettre un petit vieux dans une chambre avec un masque pour le Covid pendant des mois? Il aura quand même à manger, il aura sa piqûre, il aura ses cachets, il aura son masque. Il ne sortira pas de la chambre parce qu'on s'occupe bien de lui. Mais où est la miséricorde, chers amis? Où est la relation d'amour avec la personne là? Ce que Dieu veut pour nous, c'est que notre amour pour le prochain soit au même niveau que notre amour pour Dieu. Si nous aimons Dieu de manière absolue, il faut que nous le montrions. Nous devons nous lui montrer notre engagement pour les autres. Et on ne regarde pas aux bagatelles, on ne regarde pas à la différence, on ne regarde pas si quelqu'un est casse-pied, on ne regarde pas s'il pue, on ne regarde pas s'il est vieux, s'il est malpropre, s'il est sans argent, s'il est étranger, on ne regarde pas tout ça. Parce que on est mobilisé par Christ. Il y a une force en nous qui est Christ. Clairement, c'est cela que le Seigneur demande. Vous connaissez Matthieu 25, le plaisir de Dieu. Oui, je suis dans le thème du plaisir. Le plaisir de Dieu, c'est la vérité en moi. Le plaisir de Dieu avant le péché d'Adam et Ève, c'était le plaisir en le plaisir de la loi, le plaisir de l'obéissance dans Adam et dans Ève. Pourquoi avons-nous perdu ce plaisir d'aimer et d'obéir à Dieu? Matthieu 25. Je ne peux pas tout lire, c'est long. Seigneur, ils répondront au Seigneur le jour du jugement. Seigneur, quand avons-nous vu, ayant faim, ayant soif, étranger ou nu ou malade ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait cela, ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. La justice de Dieu est donc dans l'application dans la mise en œuvre de l'amour. La donation de mon être pour devenir un être d'amour. Être chrétien, c'est faire donation de soi-même, donation éternelle, irrémédiable, sans retour et sans regret, la donation de soi-même à Christ. Pour que nous soyons des petits Christ à travers le monde, tous. Habacuc, chapitre 1, verset 13, 8e siècle avant Jésus. Habacuc, chapitre 1, verset 13. Verset 12 et 13. N'es-tu pas de toute éternité éternel, mon Dieu, mon saint? C'est beau quand même de dire ça dans la prière. J'étais complètement frustré ce matin. Il y a plein de choses qui m'arrivent, des comportements, il y a des bonnes choses, mais il y a des comportements aussi, même de chrétiens qui ne sont pas brillants, et je suis pas brillant non plus. Donc, j'étais pas content, et puis, il y a du boulot, tant qu'on veut ici, et voilà. Fais la sieste, ça ira mieux. Je pouvais pas faire la sieste. Je pouvais pas faire la sieste, remonter comme j'étais. Comme une pile électrique. Et ma femme, je rentre dans la chambre, ma femme elle était en train de mettre de l'or dans la maison, dans la chambre. Il y avait 30, 50, 60 livres sur le lit. Oh, je ne savais pas que tu allais venir. Donc, impossible de m'allonger sur le lit. C'est pas grave. Je prends de l'avance. Je me suis couché à terre. Je prends de l'avance. Un jour, je serai couché à terre, en terre. Je lui dis, je prends de l'avance. Elle n'a rien dit. Elle a continué son boulot. Et moi, j'ai prié. Et qu'est-ce que je pouvais dire à Dieu? Qu'il était mon saint, mon amour. J'ai répété des milliers de fois. 40 minutes. Et j'étais complètement retapé. Retapé, regonflé. C'est pour ça que ces paroles qui viennent des prophètes sont des paroles très précieuses. C'est comme des baxters, des perfusions de sang qu'on remet à quelqu'un qui manque de sang. Prendre un verset biblique et le prendre au bon sens, le prendre dans son cœur, il y a une injection de vie divine très puissante. Habacuc 1:12. N'es-tu pas de toute éternité, éternel, mon Dieu, mon saint? Nous ne mourrons pas, je le sais. Ô éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Traiterais-tu l'homme comme les poissons de la mer, comme le reptile qui n'a point de maître, etc. Et clairement, nous voyons que Dieu est pur. Ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Rencontrer un jour Dieu dans les yeux est un immense succès pour votre vie, mes amis. C'est le moment le plus ultime. Ça doit être l'objet de votre désir fondamental. De chaque instant, dites-lui, répétez-lui. Sophonie, chapitre 3. Verset 9. Sophonie, chapitre 3, verset 9. Je donnerai au peuple, au pluriel, à tous les peuples du monde, des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel, pour le servir d'un commun accord. Il y aura donc une grâce formidable, immérité, un cadeau suprême pour les nations. En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions par lesquelles tu as péché contre moi. J'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance, Tu ne t'enorgueilliras plus sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit. Humble et petit. Est-ce que c'est veut dire qu'il n'y a que quelques chrétiens, comme dans la doctrine Témoin de Jéhovah? Il n'y en a que 144 000 de sauvés. C'est pas ça que ça veut dire. Un peuple humble et petit. Luc 12. Luc 12, verset 32. Un peuple humble et petit, c'est une expression pour montrer il est petit par rapport à l'orgueil du monde. Il est sans orgueil. Il est petit par rapport au subterfuge qu'emploient les riches. Croyez-vous que Dieu a besoin, pour ceux qu'il aime, d'une cathédrale, d'une basilique, d'un temple, d'une synagogue, etc., d'une mosquée? Non. Lisez l'église de Philadelphie, elle est sans puissance. Elle a gardé la parole, la porte est ouverte. C'est un troupeau humble et petit. Mais l'église de Philadelphie comptait peut-être de nombreux membres, de très nombreux membres. Et je pense qu'au ciel, ça sera comme ça. Le petit troupeau, c'est celui qui s'est abaissé comme Christ, qui a vécu comme Christ, dans l'amour, la miséricorde et le pardon, dans la vérité, dans l'authenticité de la parole divine. Et donc Luc 12, 32, ne crains point un petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'en ce mot a trouvé bon, qu'un immense plaisir paternel? Je le crois moi, en tout cas personnellement. Oui, le petit troupeau a à sa disposition un royaume futur, très proche, et il peut disposer de la bénédiction de son papa. Il faut savoir qu'on est petit. Que Dieu vous bénisse. À bientôt, un vendredi, si Dieu le permet. Nous serons à Meslan, tout près de Tours, Blois, Amboise, et si on arrive à temps, il y aura un message. S'il n'y en a pas, ce sera pour une autre fois. Dieu vous bénisse.